Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette dernière de la saison de temps additionnel. Je suis encore une fois avec Alexandre. Adichas à toi Alex.
Adichas Raphaël, et oui c'est la dernière.
C'est la dernière,
ça va me manquer.
C'est incroyable, on est le 27 juin 2024. Au programme aujourd'hui, on a pas mal de choses quand même à aborder. On a la finale de Top 14 qui va arriver ce vendredi. On a aussi le rugby à 13 à aborder avec le TO13 qui cartonne en ce moment. Hein. On le verra au niveau du classement. On peut pas passer à côté aussi à l'Euro 2024 qui nous a réservé encore une fois son lot de surprises. Et on a le tableau final pour les huitièmes de finale de cet Euro. Les favoris sont toujours là mais déçoivent un peu, on verra ça aussi. Ensuite, on aura bien évidemment la Ligue 1 qui a dévoilé son nouveau calendrier pour la saison prochaine. La Ligue 1 qu'on a suivi durant toute la saison, on suivra aussi un peu le parcours du TFC, évidemment. On parlera aussi un peu de Formule 1 avec le Grand Prix de Barcelone qui s'était déroulé ce week-end avec une victoire. Bon, vous verrez, mais comme d'habitude, hein, on le sait. Et pour finir, la Draft NBA qui a vu briller nos Français encore une fois cette année, comme l'année dernière avec Wembanyama. Là, on a trois Français de l'Top 6 de Draft NBA. Et on verra ça tout de suite. Et c'est dans quelle émission? C'est sûr, temps additionnel. Pour commencer l'émission, on va parler bien évidemment du Stade Toulousain qui a décroché son billet pour la finale de Top 14 édition 2024. Donc dans un très beau match contre La Rochelle, un match serré, on peut dire, jusqu'à ce carton rouge subi par les Rochelais à la 43e, qu'ils a fait passer à 14. Hein. Gros défi donc pour les Rochelais de passer quasiment une mi-temps entière à 14. L'espoir était toujours là puisque à ce moment du match, le Stade Rochelais menait 15-20. Mais à la suite de ce carton, c'est une démonstration toulousaine hein, qui s'en est suivie avec deux essais transformés en 6 minutes, ce qui fait passer le score de 15-20 à 29-20 en faveur des Rouges et Noirs. Et pour pas arranger le tout, les Rochelais se mangent un second carton rouge à la 63e. Deux joueurs en moins donc jusqu'à la fin du match pour les hommes de Ronan O'Gara. Bon, malgré le fait qu'on soit pris un jaune aussi. Mais deux joueurs en moins, ça fait quand même mal. Score final donc lourd pour les Rochelais, 39-23. Et lourd aussi pour les Toulousains qui filent en finale en espérant aller chercher ce doublé Coupe d'Europe Championnat. A noter du côté toulousain les essais de Blair Kinghorn qui réalise une saison magnifique. Tout comme le second marqueur, Juan Cruz Malia, qui va réaliser un doublé sur ce match. Le quatrième essai, il est signé Choco Barres à la suite d'un magnifique contre sur un ballon de relance Rochelais. Que serait évidemment une soirée toulousaine réussie sans un essai de Mathis Lebel, qui a été aussi magnifique et parfaitement servi par Romain Ntamack. Et tous les essais étaient bien évidemment transformés par Thomas Ramos, qui a fait son retour dans le 15 titulaire. Alexandre, t'en as pensé quoi toi de ce match?
Franchement, c'était exceptionnel ce qu'a fait le Stade Toulousain. On vit une période dorée, Raphaël, vraiment, parce que là, le Stade Toulousain n'a pas chuté face à des Rochelais que j'ai trouvé plutôt combatifs. Hein. Il n'y a qu'à voir comment ils ont joué en première période. Mais c'était plus que serré, parce que justement, en première période, les Rochelais ont su, dès le début, nous prendre par surprise. Hein. Je veux dire, ils ont mené quelques points, il y a eu 15-20 en faveur des Rochelais à la mi-temps. Les Rochelais se sont dit, bon allez, on gagne 15-20, ça y est, on peut faire le break. Et ils pensaient avoir fait le break. Mais ce qui est beau avec le Stade Toulousain, Raphaël, c'est qu'on n'a pas flanché. On a eu ce regain de motivation qui a fait qu'on revient juste après une farandole d'essais. Franchement, c'était un match exceptionnel. Et ce que je retiens de cette victoire, c'est les deux cartons rouges qui ont rendu la mission impossible au Rochelais de battre un Stade Toulousain plus que déterminé. Hein.
Ah déjà, battre le Stade Toulousain à 15, c'est chaud, mais à 13, ça allait encore plus. Hein, les Toulousains donc affronteront les Bordelais de l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, Stade Toulousain en finale. Pour la première fois, ça se déroule pas au Stade de France. La finale, ça se déroule au Stade Vélodrome. Donc une belle ambiance, on en est sûr. Et pour revenir un peu sur le match, c'est sûr qu'après, les Rochelais étaient quasiment à domicile, hein, on le sait. Mais ces deux grosses fautes grossières des Rochelais qui permettent aux Toulousains de filer devant. Et après, c'est le Stade Toulousain, comme tu l'as dit, génération dorée. Si tu laisses ne serait-ce qu'un petit espace à ces joueurs du Stade, ils déroulent. Donc rendez-vous vendredi pour la finale, ça va être chaud, on va être
exactement,
au capitole.
Exactement, et je vais finir aussi par le fait que normalement on mérite de gagner Stop 14. Attention quand même, Bordeaux-Bègles, c'est quand même fort, hein. C'est quand même une grosse équipe. Attention à eux parce qu'ils ont Biel Biarré, ils ont Damien Penaud, ils ont Buros, ils ont des très bons joueurs. Mais là, vu qu'on a quand même remporté la Champions Cup, je me dis là, on a juste à gagner le Top 14 et on a fait
en pleine forme, hein.
Une année parfaite.
Hein. Après, l'UBB a gagné face à un Stade français grandement en forme, même si on sait que leur jeu il est pas phénoménal, hein, tous ceux qui suivent le rugby le savent. Mais il était pas phénoménal, mais fallait les battre quand même. C'était une des meilleures défenses. Le Stade Français, ils ont réussi à la percer. Donc c'est cool pour eux, un derby 100% Garonne. Hein,
faut être oui, la chocolatine prime dans cette finale.
Exactement. Hein, ouais. Donc de quelle couleur sera la Garonne? Est-ce qu'elle sera un peu rouge bordeaux? Est-ce qu'elle sera rouge et noir? Ben, rendez-vous vendredi, tout simplement. On va passer. On a parlé du rugby à 15. On va parler de rugby à 13, bien évidemment, avec la saison du TO 13. Quelle saison du TO 13? Ils étaient en difficulté, on le rappelle, on avait suivi début février cette équipe. C'était franchement pas très facile pour nos joueurs du TO 13, mais quelle remontée, 7e victoire d'affilée. On est second du championnat, c'est magnifique. Alexandre, toi, qu'est-ce que t'en as retenu de ce match?
Alors là, chapeau, vraiment, je sais pas quoi dire non plus, hein, tellement ils nous régalent en ce moment, Raphaël. Vraiment, c'est impressionnant ce que fait le TO 13, le Stade Toulousain qui fait une performance exceptionnelle, le TO 13, Toulouse ville de rugby. Ça se confirme, et justement, pour te dire que en première période, le Théo s'est fait remarquer en musulant complètement Batley Bulldogs alors qu'on jouait en Angleterre. Donc on n'avait pas du tout l'avantage au niveau du terrain. Donc à la mi-temps, il y a eu 0-24. Alors pour les Toulousains, déjà 24-0 à la mi-temps, tu te poses quand même des questions. Mais alors là, en deuxième période, Batley qui a dominé au niveau de la possession, mais Toulouse a eu le dernier mot. Et ça a mené une nouvelle fois à un score plus que parfait, hein, 36-0 pour le TO. C'est fou ce qu'ils font en ce moment. Déjà que Doncaster a pris l'eau contre nous avec un score plus que mémorable, on s'en rappelle du 52-0.
Ouais, c'est chaud.
Ça faisait mal déjà pour Doncaster, mais alors là, Batley, qui est une équipe concurrente qui se prend 36-0 par le TO, c'est plus que mémorable. Donc ça nous permet de finir deuxième et peut-être justement monter en Super League. On verra bien ce que fait le TO 13, mais bon. En tout cas, pour dire le prochain match, le TO 13 affronte Featherstone à Ernest Vallon.
À la maison, évidemment, Featherstone 6e, hein, donc sur une. Qui enchaîne 3 défaites quand même d'affilée, qui sont dans une mauvaise passe. On le voit sous nos yeux, mais franchement, 2 matchs d'affilée, un gros score et on se prend 0 points. Le TO 13 est maintenant à la hauteur de Wakefield, qu'on voyait comme les grands favoris de ce championnat en début de saison. Moi, je rappelle, Wakefield, on s'en rappelle, c'était les intouchables. C'était les intouchables de ce début de saison. Et 7e victoire d'affilée, on a 4 points. Il faudra un faux pas pour essayer de les rattraper, sachant qu'ils sont dans une très grande forme quand même. Mais bon, on peut espérer décrocher peut-être le titre de cette deuxième division et monter en première division. On peut le faire, franchement. Il n'y a plus personne qui nous fait peur maintenant avec les gros résultats qu'on a fait. Il faut filer vers la première division et aller titiller peut-être l'année prochaine les Dragons catalans en rugby à 13.
Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi par rapport à ça, mais c'est vrai qu'à un moment, je pense qu'on ne va pas gagner. Enfin, ça dépend comment ils vont aborder les prochains matchs, mais ce serait bien quand même qu'ils restent avec que des victoires. Ce serait beau, mais malheureusement, je pense qu'à un moment, les victoires vont s'arrêter pour le TO, mais j'espère qu'ils vont au moins rester pour les playoffs.
Ouais, top 2, top 3, mais c'est sûr. Ça. Après, on voit que nos concurrents directs ne sont pas dans une grande forme non plus. Hein. Wideness a encaissé une défaite. Featherstone, 3 défaites d'affilée. Batley, on le sait, défaite aussi. Donc, ça se profile bien pour nous. En tout cas, on est dans une bonne phase et profitons-en. Et bonne chance au TO 13. Hein. On va... On va passer évidemment à l'événement de l'été hein, qu'on continue à suivre, c'est l'Euro 2024 qui nous réserve encore plein de surprises. On a noté plein de matchs avec Alexandre, on va parler de quelques-uns. On va parler premièrement de Portugal-République Tchèque. Portugal qui a gagné donc 2-1 face aux Tchèques dans un match dur qu'ils ont décroché dans les prolongations, je crois. Ouais. Le deuxième but de Conceição est dans les prolongations. Donc c'est un match assez serré mais qui a vu une première victoire pour le Portugal. On va rester sur le Portugal, on va faire leurs 3 matchs, après on passera à l'Italie et à la France peut-être. Le second match du Portugal, c'était face à la Turquie, victoire nette 3-0 des Portugais dans un match à sens unique où les Turcs ont fait de gros cadeaux aux Portugais. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en as pensé, mais c'était 3-0.
Alors, moi, je m'attendais quand même à un duel plus serré. Je veux dire, la Turquie avec Arda Güler, Kenan Yıldız, tu te dis, la Turquie, ça pouvait être pas mal. Ils pouvaient peut-être tenir tête au Portugal, mais là, 3-0, net sans bavure. Là, ça montre vraiment que le Portugal a vraiment joué sérieusement. Parce qu'il y a certains matchs où je me dis, mais le Portugal, comment ça se fait qu'ils se préservent? Pourquoi ça se fait qu'ils sont timides? Mais là, vraiment, le 3-0, le Portugal, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient contre les Turcs, mais tout est dit.
Après, les Turcs les ont un peu aidés aussi, mais tu l'as dit, ils se préservent comme sur le match, sur le dernier match, hein, sur le match d'hier soir. Face à la Géorgie, ils ont perdu 2-0. Bon, ils étaient déjà assurés de finir qualifiés. Ils n'ont pas aligné forcément l'équipe type non plus, mais 2-0 face aux Géorgiens, c'était, les chirurgiens, ils avaient envie, franchement, c'était
ah bien. Oui, la Géorgie était impressionnante, ouais. T'as rien à dire, infatigable tout le match. Le Portugal, ça se voyait qu'ils étaient en train de se préserver parce qu'ils étaient déjà qualifiés pour les huitièmes, ouais. Donc ça servait à rien qu'ils se donnent à fond. La Géorgie, en revanche, avait... alors, c'est vrai qu'au départ, ils pensaient n'avoir rien à perdre, donc ils ont joué à fond, mais dès qu'ils se sont dit que c'était possible pour eux de se qualifier pour les huitièmes, ils se sont donnés à fond et... Et ça a payé 2-0 la Géorgie qui est qualifiée pour les huitièmes de finale. Ça, hein. Pour leur premier Euro de
l'histoire. Premier Euro et première qualification en huitième. En tant que supporter portugais, ça ne m'a pas fait trop mal de voir les Géorgiens quand même perdre. Parce que bon, ils ont fait un match de fou et franchement, ils méritent. On va parler un petit point quand même sur la France. Parce que sur la France, quel ennui. Quel ennui ce match France-Pays-Bas, Alex. Je pense que tu l'as vu aussi. On s'est ennuyé dans une attaque stérile hein, avec l'absence d'Mbappé, on le sait. 0-0, c'était le premier 0-0 de l'Euro. Hein. Fallait que la France, évidemment, l'inaugure. J'ai peur, moi, pour la suite. Hein. Je sais pas si on va aller loin en jouant comme ça.
Moi, je te dis, je pense que le mieux, c'était s'il fallait voir Stade Toulousain, Stade Rochelet. Parce ouais, que là, ouais. La France, 0-0, c'était plus que décevant. Encore, oui, les Pays-Bas, c'était un adversaire qui est plutôt bon, compte tenu de l'effectif qu'ils ont. Et 0-0, j'estime que vraiment, c'était un non-match. Surtout. Au départ, peut-être les Pays-Bas ont failli marquer parce que Xavi Simons il marque, mais le but a été refusé.
C'est ça, on s'est fait peur.
On s'est fait peur, mais c'est encore très peur. Plus ennuyeux. Du coup.
C'est ça, donc match ennuyant d'équipe de France et le dernier match aussi ennuyant, Pologne face à la Pologne, donc un partout. Donc l'Autriche, c'est l'Autriche au final qui finit premier de ce groupe, la France finit que seconde de ce groupe et affrontera donc la Belgique en huitième de finale. Un partout face à la Pologne aussi dans un match où franchement on s'ennuie. Un gros manque d'animation offensive, mais un point positif quand même à noter, c'est peut-être la défense. Un but pris en 3 matchs, et franchement, c'est un point positif. Peut-être que si on arrive à garder cette défense inviolée, c'est quand même pas mal. Donc toi, Alex, tu vois quoi? Peut-être un petit parcours de la France, peut-être pas arriver en finale, mais au moins battre les Belges en 8ème de finale.
Non, mais par rapport à ce que t'as dit sur France-Pologne, t'as tout dit, hein, la défense... a fait qu'il y a eu un partout et c'est vrai que malheureusement l'attaque en France est un peu débordée, je sais pas exactement qu'est-ce qui arrive à l'attaque en France, sachant qu'ils ont marqué qu'un seul but, c'est le pénalty de Mbappé.
C'est un pénalty et le deuxième but c'est un but contre son camp, donc je sais pas si on va avoir de très bons matchs avec l'équipe de France et on va parler d'Italie pour te faire plaisir un peu Alexandre, qui a d'abord perdu face à l'Espagne 1-0 dans un match, le score il reflète pas totalement le match puisqu'il y a une grosse domination espagnole malgré que l'Italie s'est bien battue, mais l'Espagne a bien dominé et confirme son statut de favori hein, qu'on avait donné au début de l'Euro qui fait bonne figure. L'Italie, toi, t'en as pensé quoi Alex? C'est un peu déçu, non j'imagine.
Franchement, je suis vraiment énervé contre l'Italie hein, parce que là ça se voit que l'Italie ne veut pas jouer sérieusement. En fait, contre l'Espagne, je m'attendais, oui, peut-être à un duel un peu plus serré, mais dès que j'ai vu le début, j'ai su de suite qu'on n'allait pas arriver parce que là, Di Lorenzo qui se fait mais vraiment mettre à l'amende par Williams, ouais, à chaque fois je me dis mais qu'est-ce qui lui arrive à Di Lorenzo, il savait même pas où il était carrément, sans parler de Lamine Yamal saison qui te lâche des grosses frappes. En fait je vais te dire honnêtement, le seul joueur qui m'a vraiment impressionné dans cet Euro avec l'Italie, c'est Donnarumma, c'est celui qui sauve vraiment l'Italie, parce que là ce que j'ai vu de ce match honteux Espagne-Italie, alors bien sûr je félicite les Espagnols parce qu'ils ont fait un gros match, rien
ouais,
à dire,
c'est vrai.
On n'a même pas, dis-toi, attends, ils ont fait 20 frappes, nous on a fait que 2 frappes, vraiment c'était ridicule. Par rapport à ça, l'équipe d'Espagne, c'est une équipe assez jeune, assez dynamique, alors que l'Italie, c'était une équipe qui faisait vraiment peine à voir. Sans parler aussi du match Italie-Croatie, parce qu'on s'est dit... Ouais, un partout, mais dernière minute Zakagne qui nous envoie un huitième, j'ai célébré comme pas possible, j'ai cru qu'on avait gagné la Coupe du Monde. C'est dire.
Tu m'étonnes, mais après l'Italie, c'est sûr que à part l'Euro 2020-2021, où il y a eu une grosse surprise, c'est pas la folie hein, au niveau international, on le sait. Donc après, le match nul, accroché dans les derniers instants. Moi aussi, franchement, ce match, il m'a fait vibrer parce que l'Italie, comme la Croatie, méritait franchement de gagner en termes d'envie, pas en termes de qualité de jeu, mais en termes d'envie. Les deux équipes étaient présentes. Franchement, c'était un match plaisant à voir et bravo à l'Italie de s'être qualifiée. On va passer peut-être juste vite fait pour finir au tableau de cet Euro. On va voir les matchs. Donc, Espagne-Géorgie, donc gros point pour, je pense, l'Espagne hein, qui doit terminer cette Géorgie malgré qu'elle est en vie, malgré qu'elle est c'est son premier Euro et qu'elle est la fougue. L'Espagne doit passer obligatoirement. L'Allemagne aussi, on n'en a pas parlé, mais l'Allemagne, gros Euro de l'Allemagne qui affrontera le Danemark qui est obligé aussi de passer hein, face au Danemark. Portugal-Slovénie, France-Belgique. France-Belgique, un gros choc, hein, on le sait. C'est un peu, c'est nos voisins, donc on est obligé de gagner contre nos voisins.
Et pour te dire, c'est pas du tout un parcours facile pour la France, parce que non, déjà, les huitièmes, on affronte la Belgique. Mais là, si, imaginons, on passe. Après, on sait pas comment la France va être en phase finale, mais imaginons. Eh ben, on peut passer, on va affronter le Portugal. Et si on arrive à passer le Portugal, mais je sais que ça t'énerve, hein, c'est compliqué pour toi, France-Portugal. Compliqué pour toi, j'avoue.
Mais dans tous les cas, c'est... Chaque match, ça peut être une finale pour l'équipe de France, hein, parce que France-Belgique, ça peut être une finale. Portugal-France, ça a été une finale en 2016. Allemagne-France, c'est un derby qu'on aime tous voir. Et France-Espagne aussi, en demi-finale, ça peut être incroyable. Donc que des gros matchs à jouer pour l'équipe de France, ça peut être le plus bel euro remporté par l'équipe de France, hein, au niveau du parcours. De l'autre côté, c'est un peu plus faible, hein. On a la Roumanie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Turquie, l'Angleterre, la Slovaquie, l'Italie et la Suisse. Donc l'Italie et l'Angleterre font figure de favoris dans cette deuxième partie de tableau, je pense, qui vont peut-être s'affronter déjà dès les quarts de finale si l'Italie arrive à passer face à la Suisse, un remake de la finale de 2021, gagné par les Italiens, évidemment, bon souvenir pour toi. Y aura forcément, sûrement, Angleterre ou Italie en finale, donc un finaliste de l'Euro 2024, qui était déjà finaliste de l'Euro 2020, si on en suit les favoris. Donc gros match à suivre pour les Italiens qui vont ouvrir le bal de ces huitièmes de finale de l'Euro 2024. Je pense qu'on en a fini pour l'Euro 2024, on va juste passer peut-être à la Ligue 1. À la Ligue 1 parce que le calendrier est tombé la semaine dernière pour la Ligue 1 et on a vu de gros matchs, hein, pour l'ouverture. Monaco, Saint-Etienne qui fait son retour en Ligue 1, qui affronte directement Monaco. C'est du costaud. On a aussi Auxerre champion de Ligue 2 qui va affronter l'OGC Nice qui était en grande forme l'année dernière. Et du côté toulousain, on va affronter nos meilleurs amis, les Nantais.
Oui, bien sûr, nos meilleurs amis, ouais.
On les avait reçus, on était allés chez eux l'année dernière en match d'ouverture, on les avait battus 2-1. Donc ça fait plaisir et cette fois-ci on les reçoit, on les aime bien, les Nantais, on les a battus 5-1 en finale de Coupe de France, on s'en rappelle, en 2023, pardon. Donc bon, là c'est victoire obligatoire parce qu'on sait que les Nantais, ils nous aiment pas, on les aime pas, faut gagner là.
Obligé. Ah oui, vraiment, faut gagner. Mais attention, parce que vraiment, le TFC, je sens que le mercato, il y a beaucoup qui vont partir. Ouais. Et je sais pas qu'est-ce que Comolli va faire pour. Au niveau des recrutements, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Je crois que là, actuellement, ils sont positionnés sur un latéral grec, mais je crois qu'il est trop cher. Il me semble qu'il coûtait 2 millions.
Ah ouais.
Et il me semble que justement, le budget du TFC, c'est 2 millions juste
non,
pour
on a pas
le
beaucoup
mercato.
De budget, mais après, il y aura beaucoup de départs. Nalinga qui est prévu pour 20 millions d'euros, un départ pour 20 millions d'euros vers peut-être Lyon ou un
la
autre
Roma,
club,
ouais.
Ou Lyon ou la Roma. Donc ça peut faire une belle enveloppe, hein, pour le TEF qui peut se renforcer. Je pense qu'après, pour remplacer Dalinga, on a Magri qui peut beaucoup monter en puissance, on a Gbo sur les côtés et Abouklal qui doit revenir aussi en forme. Donc franchement, j'ai l'espoir parce qu'on laisse partir de gros joueurs, mais on a de la réserve derrière. Et ça peut être possible de peut-être décrocher un bon top 10 cette fois-ci comme on vise depuis maintenant 2-3 ans. Donc premier match, hein, le 19, pas le 18 mais le 19 août face à Nantes au Stadium, donc rendez-vous là-bas, franchement il va falloir supporter les violets. Bon, le foot c'est fini, on en a assez parlé je crois avec Alex, hein, ça suffit, on va parler du Grand Prix de Barcelone. Qu'est-ce qui s'est passé au Grand Prix de Barcelone? C'est victoire hollandaise en terre espagnole ce week-end. Max Verstappen s'impose au Grand Prix. Hein. Dans un Grand Prix donc assez mouvementé, on a vu des qualifications assez aussi mouvementées, c'était quand même incroyable. Et donc c'était normal de s'attendre à un Grand Prix de la sorte. C'est Lando Norris qui s'était lancé en pole position, mais vite rattrapé par Verstappen. Et aussi Russell qui a fait un départ canon, qui a fait P4, P1, donc qui est passé de 4e à 1er en un seul départ. Du côté Ferrari, qui était parti un peu plus derrière à la 5e et 6e place, ils ont tenté une stratégie décalée qui les a permis de rester en vie dans un Grand Prix où la voiture fonctionnait pas très bien, on l'a vu déjà dès les qualifs. Là où par contre où ça marchait, c'était du côté des flèches d'argent, du côté de Mercedes et aussi du côté de McLaren et Lando Norris qui nous ont offert de belles batailles avec George Russell pour la seconde place jusque dans les derniers tours. Hamilton aussi nous a bien surpris en terminant 3e en chipant la place à son coéquipier George Russell. Donc un podium, Max Verstappen pour Red Bull, Lando Norris pour McLaren et Hamilton qui revient donc sur les podiums, qui ajoute encore un podium, qui allonge encore son record de podium pour McLaren. Non, ça c'était dans les années 2000 pour Mercedes. T'as noté quoi toi du Grand Prix, Alexandre?
Et franchement, on peut dire que Barcelone a transformé McLaren Mercedes. En fait, j'ai l'impression qu'on revient un peu à l'ancienne époque où Mercedes...
C'est ça, les années 2000.
C'est ça, ou même ouais, 2010, où Mercedes roulait complètement sur le championnat. Mais là, vraiment, je peux te dire, Barcelone a transformé McLaren et Mercedes. Lando Norris était le principal challenger de Verstappen. Ça a montré que McLaren est toujours là. On peut dire que McLaren a pour l'instant tourné sa page sur les saisons difficiles, je pense à mon avis. Et en vrai, Mercedes a également montré des signes de renouveau. Je veux dire, là, Hamilton, il a retrouvé le chemin du podium, enfin. C'est un retour attendu après une série de performances décevantes. Parce que là, honnêtement, Mercedes, je me demandais s'ils voulaient vraiment remporter ce championnat du monde. Parce que là, quand t'as Toto Wolff, quand tu as Russell, quand tu as Hamilton, normalement, tu te dis qu'au moins, tu peux viser le podium. Mais bon, on va dire que c'est un peu compliqué. Mais là, ça fait plaisir de voir Mercedes au moins faire un podium à Barcelone. Et bon, malheureusement, ça me fait mal en tant que fan de Ferrari, mais ouais, Ferrari était décevant, ouais. Sachant qu'en plus, au niveau du 20e tour, Leclerc était déjà 3e. En fait, il y a une succession de mauvaises choses, tu veux, comme des erreurs de stratégie. Et ça a fait que Ferrari a peiné à suivre le rythme imposé par ses concurrents, comme Red Bull, McLaren, tout ça, donc ils ont vraiment eu un problème. Après, bon, victoire de Verstappen, on s'y attendait encore une fois, mais bon, au moins, la Formule 1 n'a pas trop été dominée par la dynastie Verstappen cette saison. Donc ça promet pour le prochain Grand Prix qui se déroulera donc à Silverstone, Raphaël. Et on sait que Hamilton, il réussit très bien chez lui en Angleterre, Silverstone.
Oui, et même il y a beaucoup de pilotes anglais. Il y a beaucoup de pilotes anglais, Hamilton, Norris, Russell. Donc ça peut être un Grand Prix intéressant pour eux, sachant que Silverstone, je m'en rappelle de Silverstone 2022, surtout qui m'avait marqué. C'est toujours des Grands Prix spectaculaires où il y a beaucoup de dépassements, où les virages rapides font du mal aux pneus, il y a des stratégies. C'est franchement, s'il y a un Grand Prix à suivre en Europe, c'est celui-là, je pense, parce qu'il se passe toujours des trucs. Donc au classement constructeur, parce que du coup ça a un peu bougé. Donc McLaren qui se rapproche dangereusement de Ferrari à plus de 30 points. Un 30 points les sépare, Ferrari second, McLaren troisième. Et c'est Mercedes qui revient à 151 points maintenant, donc quatrième. La lutte pour la seconde place au championnat, elle va être serrée. Malgré le fait que quand même Red Bull ne s'envole pas trop. Hein. Ils sont à 70 points de Ferrari. Tout est possible, il y a un renversement, il y a l'été qui va se passer, il y aura un gros trou de un mois sans Grand Prix, donc on peut tout espérer peut-être pour cette fin de saison, et même peut-être une victoire autre que Max Verstappen, ça peut être... Je pense que ça peut être possible, donc on verra bien.
Et oui, on verra bien.
On verra bien. Pour finir, cette émission, on va pas parler encore une fois du Phoenix, qui a fini sa saison évidemment, mais on va parler de la NBA, la draft. NBA qui s'est déroulé donc la nuit dernière. Pourquoi je vous en parle? Parce que dans le top 6 de la draft, il y a 3 Français et c'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc la draft NBA, qu'est-ce que c'est? C'est la NBA, donc c'est l'organisation américaine de basket qui organise une sélection de jeunes joueurs qui vont pouvoir rentrer en NBA la saison prochaine, donc souvent des jeunes situés en Europe ou ailleurs, qui vont pouvoir rentrer en NBA et faire carrière dans le plus grand championnat du monde. Hein. C'est ce qui aide aussi ce championnat a resté le plus compétitif et le plus regardé en termes de basket. Donc pour ce qui est de nos 3 Français draftés, donc le premier Français drafté, c'est Zachary Risacher, donc avec Atlanta qui venait du club de Bourg-en-Bresse. Donc le premier joueur drafté est un Français. Le second aussi est un Français. Et il est plus que ça, il n'est pas Français, il est Toulousain. Alexandre Sarr, donc rejoint les Washington Wizards en provenance de Perth. En Australie, donc il joue en Australie, mais c'est un Toulousain évidemment, donc ça fait plaisir de voir aussi la France briller aux États-Unis, sachant que il y a toujours eu des légendes, hein, Tony Parker, tout ça, donc on connaît les légendes françaises en NBA. Et le sixième, c'est Tijan Salen, qui vient donc de Cholet et qui va rejoindre les Charlotte Hornets pour cette saison 2024. On a vu les Français de l'année dernière briller en NBA, comme Wembanyama, on le sait, meilleur rookie de la saison, meilleur joueur de la saison. C'est bon signe pour la suite et donc la France revient en force en NBA. Alex, toi peut-être t'as quelque chose à noter ou
ah oui, oui,
en général
Par rapport à ce que t'as dit sur Wembanyama, là je pense que le fait qu'il y ait 3 Français qui ont été sélectionnés à la draft, moi j'appelle ça l'effet Wembanyama, parce que là le fait qu'il ait été... Parce qu'au départ c'était un pari pour les Spurs parce qu'il jouait à Metropolis 92.
C'est ça.
C'est vrai que Wembanyama pour sa taille et pour ses performances en Ligue Moly, en Bet League, en Ligue française, tu te dis justement qu'il pouvait peut-être avoir une place en NBA. Les Spurs ont voulu faire ce pari, ce qui fait que là, comme tu as dit, élu meilleur rookie de la saison, rien à dire. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas remporté la NBA parce que c'est les Celtics Boston, mais ça promet quand même pour les Spurs qui ne rentrent pas de bredouille finalement. Donc non, ça fait que non. Ouais.
Ça fait plaisir et puis ouais, on a vu Wembanyama, bah il y avait quand même de gros doutes même s'il surperformait en championnat français, on avait quand même de gros doutes mais physiquement il s'est transformé. Et on l'a dit meilleur rookie, meilleur joueur de la saison. Donc franchement, c'est pas mal et même au niveau des Français de cette année, il y a beaucoup d'espoir, surtout sur Tidjane Salloun, même outre le fait qu'il soit que 6e physiquement il est déjà comparé à Giannis Antetokounmpo ou des joueurs comme ça, donc très physique, qui est capable de faire beaucoup d'efforts. Donc franchement, c'est de très bon augure pour le basket français. À noter juste, ces trois joueurs ne seront pas au JO. Le temps d'adaptation, le temps de signer tous les contrats et tout ça, ils ne peuvent pas être au JO. Mais c'est pour les prochains championnats du monde, les prochains championnats d'Europe, la France, ça va être du costaud. Et ça va pouvoir rivaliser peut-être avec les États-Unis ou des équipes comme ça. Ouais. Des équipes qui ont toujours survolé et surperformé en NBA. Donc ça fait plaisir de voir des Français, trois Français dans le top 10. C'était jamais arrivé qu'une nation autre que les États-Unis aligne trois joueurs d'une même nation dans le top 10 d'une draft. Donc ça fait plaisir et puis on verra la saison prochaine comment ça se passe pour eux.
Exactement, il faut faire attention à Atlanta, qui est donc Rizaché. Washington avec Alexandre Sarr, le Toulousain. Attention, on va les yeux rivés sur lui quand même parce que c'est la fierté de la région.
On va essayer de le suivre.
Et bien sûr, les Hornets avec Tidjane Salloun. Ça va être du lourd, la NBA.
Ça va être du très très lourd, franchement. Et c'est sur cette draft NBA et les succès français que se finissent. Donc l'émission du jour, c'était la dernière de la saison. On va se retrouver peut-être certainement la saison prochaine pour vous parler encore une fois de sport. Il y aura de nouveaux formats, il y aura de nouvelles idées, ça c'est sûr. Donc là, on va faire pas un résumé sur l'émission, mais un résumé sur la saison. Une ou trois un peu plus longue que d'habitude, mais... Franchement, on a appris beaucoup de choses au niveau rédaction, au niveau organisation, au niveau débit de parole, tout ça avec Alexandre. Je pense qu'on s'est beaucoup amélioré, peut-être que vous l'avez vu au fil des émissions. Mais en tout cas, ça a toujours été un grand plaisir et c'est toujours un grand plaisir de faire les émissions. Toi, t'en as pensé quoi, Alex, de cette saison en général,
de ces six mois ? C'est vrai qu'il y a vraiment une grosse amélioration dans cette émission. Ouais. Je suis assez content même d'avoir participé avec toi. On a pu pas avoir forcément les mêmes avis, on a pu débattre sur certains sujets, on a pu aussi avoir les interventions de ceux qui étaient à l'IAJT. Donc, c'était sympa. Et puis, si je dois retenir un peu la saison avec toutes les équipes de Toulouse, alors là, le Stade Toulousain, rien à dire, exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Le TFC pouvait mieux faire parce qu'on pensait qu'il pouvait mieux faire la saison, mais l'Europa League, on s'en rappelle, très beau parcours.
C'est vrai, ils nous ont fait vibrer quand même.
C'est ça. Puis le Phoenix qui se qualifie aussi en Coupe d'Europe. Ça, on n'en parle pas très souvent, mais le Phoenix mérite qu'on en parle de leur parcours. Impressionnant. Et puis...
Théo 13 aussi.
C'est ça, ouais, le Théo 13.
On dit très, 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 très bien. Et après, voilà, toutes les actus internationales qu'on a réussi à traiter, franchement. Donc, c'est la dernière, c'était la 23e et dernière émission de la saison. On se retrouve dès septembre pour la suite de temps additionnel, j'espère. Et avec Alexandre, on ne vous dit pas la semaine prochaine, mais
à la saison prochaine.